Merci Mariam et bonne journée. Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Comme tous les samedis, au sommaire, le duel. Et puis le débat sur l'esprit et l'utilité d'une loi. Ne plus dire séparatisme. À partir de lundi, les députés examineront le projet de loi pour, je cite, « conforter les valeurs de la République ». Près de 2650 amendements déposés avec un objectif, lutter contre l'islamisme radical. Notre invité est professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur du Centre des études arabes et orientales. Il est lu à l'Élysée. Il dialogue avec Gérald Darmanin. On a pu le présenter comme l'éminence grise de l'exécutif sur ces sujets. Il y a un an, il dirigeait une enquête très ambitieuse, Les territoires conquis de l'islamisme au PUF, livre qui avait eu un impact considérable. Une version augmentée vient de paraître. Et Bernard Rougier sera notre invité dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit depuis qu'hier soir, on entendait le Premier ministre prononcer ces mots.
La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données. Mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter.
Jean Castex, à l'issue du Conseil de défense sanitaire hier soir depuis le palais de l'Élysée, le Premier ministre qui affirmait donc que notre pays était en sursis face au confinement, mais que nous pouvions, je le cite, encore nous donner une chance de l'éviter. On a l'impression qu'il vous a lu, Natacha Polony, notre dernière éditoriale dans Marianne, qui dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus et qu'on ne peut pas passer notre temps à reconfiner. Vous étiez soulagée, Natacha, finalement, que nous ne soyons pas reconfiné.
C'est pas vraiment une question de soulagement. Disons que ce qui est intéressant dans l'intervention du Premier ministre, c'est cette idée qu'en effet, l'exécutif semble avoir pris conscience que le confinement immédiat serré, comme on dit, comme ils disent maintenant, et que cette solution maximaliste, en fait, n'est pas forcément la meilleure qui soit. C'est-à-dire que c'est la solution qui satisfait dans l'immédiat. D'ailleurs, on voit même à quel point les sondages nous disent que une majorité de Français serait favorable à ce reconfinement, alors ce qui est quand même assez paradoxal, puisque donc on a 60% de Français qui sont favorables au reconfinement, mais on n'en a que 14% qui acceptent les mesures lié à ce reconfinement. Donc en fait, on voit à quel point l'angoisse...
Le Gaulois réfractaire est paradoxal.
Oui, puis c'est surtout que les variants, les mutations provoquent une angoisse, entretenue par, en effet, les discours de médecins qui viennent dire « attention, on va être débordé, attention, on est déjà débordé ». Tout le monde sent bien que cette solution-là ne peut pas être une solution de long terme, c'est une solution de court terme. Or, nous sommes en train de nous installer dans du long terme. Et ce que je trouve intéressant dans la position du gouvernement français, c'est qu'il semblerait que Emmanuel Macron ait compris cela et tente à tout prix de trouver d'autres solutions. Peut-être n'y arrivera-t-il pas. Et peut-être se retrouvera-t-il dans une semaine obligé de confiner avec des gens qui lui diront « vous l'avez fait trop tard, c'est un scandale, etc. » Je crois au contraire que cette tentative de se situer dans un temps long et de ne pas sacrifier certaines vies à d'autres me semble intéressante. Parce qu'en fait, on en revient toujours à cette question de l'éthique autour de laquelle nous tournons depuis le début. Sauf que, au début de cette épidémie, la question éthique avait été posée de cette façon. Est-ce qu'il faut sauver des vies ou sauver l'économie? Sauf qu'on s'aperçoit que ça ne se pose absolument pas dans ces termes-là. La question éthique aujourd'hui, elle est de savoir si on doit sacrifier certaines vies à d'autres, quelles vies on sacrifie, ou si on peut accepter d'équilibrer, de prendre certains risques, mais pas d'autres. Parce que quand on confine, on le sait, on sacrifie des vies aussi.
Alors,
c'est ça dont on s'aperçoit de plus en plus.
On va y revenir, Natacha. Gilles Finkelstein, même question. Vous avez été soulagé hier en entendant Jean Castex, ou est-ce que vous vous êtes senti toujours en sursis? Et puis j'aurai une question plus technique pour vous juste après.
Je ne me suis pas senti soulagé. Je trouve qu'on est dans une situation ubuesque où on avait une direction claire qui était un confinement qui était attendu, qui était préconisé maintenant depuis plusieurs semaines par le conseil scientifique et par l'ensemble de la communauté médicale, qui était préparé, y compris préparé dans l'opinion par le gouvernement, qui était enregistré par l'opinion qui s'y attendait. Et là, on a eu une communication totalement illisible. Alors c'était compréhensible il y a un an quand on était dans l'inconnu total. Les déclarations contradictoires à ce point de ces derniers jours et de ces dernières semaines, ces promesses d'annonces qui ne viennent pas, ces fuites mal organisées, ces annonces précipitées, je trouve ça absolument illisible. Et je trouve que les mesures sont difficilement compréhensibles. Je trouve qu'elles sont très dures, très brutales par leur rapidité, notamment pour les centres commerciaux. Et je crains qu'elle soit trop molle pour circonvenir la progression du virus. Donc je suis moins soulagé que ne l'est Natacha. Personne, oui, évidemment, ne peut souhaiter un confinement. Chacun comprend que ce ne peut être qu'une solution de court terme avant que la campagne de vaccination prenne son ampleur. La question est de savoir, peut-on l'éviter? Et si la réponse est non, eh bien, le plus tôt et le mieux si on veut que ce confinement dure le moins longtemps possible.
Avant de donner la parole à Natacha, Gilles, on a beaucoup entendu parler d'acceptabilité sociale, ce qui est assez curieux comme expression, mais en tout cas elle s'est imposée dans les journaux, dans la presse et dans la bouche de nombreux journalistes. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça se mesure, l'acceptabilité sociale d'une mesure sanitaire, du confinement par exemple?
Oui, alors ça se mesure dans une certaine mesure, si je puis dire, et c'est sans doute... Et peut-être je ne partagerai pas l'analyse de Natacha sur ce point, c'est sans doute ce qui a pesé dans ce report d'un confinement que le pouvoir peut penser irréversible. Comment ça se mesure et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est posé exactement la même question, peut-être vous vous en souvenez, au moment du deuxième confinement, c'est est-ce que l'opinion va accepter? Et je crois que cette question n'est pas très bien posée, parce que qu'est-ce qu'on regarde? On regarde souvent, disons, la face visible de la Lune, c'est-à-dire ceux qui consentent au confinement. Et ce que les enquêtes montrent, il y en a eu 4 cette semaine, c'est que vous avez une majorité de Français, en gros de 52 à 64% selon les instituts, qui consentent à ce confinement. Mais c'est une majorité, et c'est ça le point par rapport aux périodes précédentes, y compris par rapport au deuxième confinement, qui est 15 points inférieur. Ce qu'on devrait aussi regarder, c'est la face cachée de la Lune, c'est-à-dire non pas ceux qui consentent, mais ceux qui s'opposent et ceux qui s'opposent fermement. C'est ceux que l'on a vus ailleurs, sous des formes diverses, cette semaine encore aux Pays-Bas. Et là, c'est plus difficile de les estimer. Vous avez, disons, une fourchette, la fourchette basse, c'est 2% de Français qui disent « je m'opposerai aux mesures qui sont prises ». Vous avez une fourchette moyenne qui dit 7% qui dit « je ne les respecterai pas ». Et vous avez une fourchette haute, entre 15 et 25%, donc c'est beaucoup, de Français qui disent « je suis très opposé » ou « je ne suis pas du tout favorable à ce confinement ». Et je crois que c'est aussi la crainte de cette absence de maîtrise de la situation qui explique ce report d'un confinement qui est peut-être, je le crains, inévitable.
Natacha Polony, encore un mot sur le sujet.
Oui, un mot pour dire que, d'abord, encore une fois, la question n'est pas d'être soulagé ou pas soulagé en se disant on n'est pas confiné. Je suis d'accord avec Gilles sur la communication erratique de ces derniers jours et le caractère assez effarant des calculs politiciens. En revanche, la question est une question beaucoup plus vaste et qui nous concerne tous. Et il faudrait maintenant réfléchir aux moyens de débattre réellement, c'est-à-dire véritablement avec tous les instruments qu'offre la démocratie, pour discuter de ce que nous voulons faire à long terme. Parce que là, nous nous situons toujours dans cette espèce d'idée que nous allons reconfiner, que les vaccins arriveront et que tout ça sera terminé. Il me semble que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, que premièrement la campagne de vaccination, et on va en parler,
on va y venir,
ne vient pas aussi vite qu'on l'espérait. Et que surtout, nous devons aussi réfléchir à l'hypothèse qui serait celle, eh bien, de virus, de mutations qui nécessiteraient de nouveaux vaccins et qui nous inscriraient dans un temps beaucoup plus long. Donc, moi, je ne reproche pas au gouvernement d'essayer de prendre en compte ce qui, aujourd'hui, n'est pas seulement une lassitude, mais une souffrance majeure de l'ensemble de la société, une souffrance qui est extrêmement profonde et qui nécessite qu'on fasse des arbitrages qui certes sont complexes, sont douloureux. Peut-être que ce gouvernement va se tromper. Dieu sait que j'ai pu le critiquer sur beaucoup de choses depuis un an. Mais là, je ne crois pas qu'on soit simplement dans un arbitrage entre l'acceptabilité, la peur des émeutes et l'idée qu'on devrait reconfiner mais qu'on n'ose pas. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je note juste qu'un sondage qui est sorti ce matin, sondage Harris Interactive, place Marine Le Pen au second tour à 48%. Ce qui veut donc dire que la victoire est possible, que les idées que nous défendons, que ce soit sur la fermeté en matière pénale, sur le retour au patriotisme économique, le localisme, la proportionnelle aux élections, toutes ces grandes idées sur lesquelles nous sommes entendus depuis des années n'ont jamais été autant d'actualité dans le débat et nous comptons bien effectivement remporter l'élection présidentielle.
C'était Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement National, qui était l'invité du 7-9 d'Inter jeudi. Après cette enquête Harris Interactive qui place la présidente du RN, Marine Le Pen, à seulement quelques points du président sortant dans l'hypothèse d'une future présidentielle. C'est la photographie d'un rapport de force, comme ont l'habitude de le dire les sondeurs. Mais la bataille s'annonce d'ores et déjà tendue. Cela provoque de l'espoir au Rassemblement National. Et Marine Le Pen déclarait elle-même hier, je cite, « L'hypothèse de ma victoire est plausible ». Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce sondage. Est-ce qu'un sondage de deuxième tour de présidentielle a du sens aussi loin de l'échéance ?
Un sondage aussi loin de l'échéance a peu de sens et pour le second tour et pour le premier tour. On avait déjà débattu en octobre dernier d'un sondage d'une plus grande ampleur qui avait été réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche. La seule constante, je l'avais dit, de tous les sondages qui ont été réalisés depuis 30 ans à 18 mois de l'échéance, c'est qu'ils n'ont jamais donné les bons finalistes. Ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans. Malgré tout, si on y jette un œil, je crois que c'est un double signal d'alarme. C'est un signal d'alarme pour la gauche. Là encore, c'est la face visible de la Lune, c'est ce premier tour qui a été publié. On voit à quel point ce sondage est mauvais pour la gauche. Dans son ensemble, le total des candidats recueille moins du quart des suffrages, alors même que la structure de l'électorat d'Emmanuel Macron est plus à droite qu'elle ne l'était auparavant. Donc on a une gauche qui est basse et oui, qui est, c'est mauvais pour chacune de ses composantes. Hein, Jean-Luc Mélenchon fait un score qui est presque deux fois inférieur à celui de 2017. Les écologistes ne parviennent pas à prendre le leadership ni sur la gauche dans son ensemble, ni vraiment sur le PS. Et c'est décevant pour le candidat socialiste, que ce soit Anne Hidalgo ou Arnaud Montebourg. Ça, je crois que c'est le premier signal d'alarme. Le risque pour la gauche, c'est de faire l'impasse sur la présidentielle de 2022. Ce n'est pas son élimination, c'est son effacement. Et le second signal d'alarme, c'est celui que vous venez d'évoquer, c'est le signal d'alarme pour Emmanuel Macron. C'est la face cachée de la Lune une nouvelle fois, c'est ce deuxième tour dont les résultats n'ont pas été publiés. Et là, il y a un vrai sujet de transparence. Est-ce que ce sondage existe ? Quels sont l'ensemble de ces données ? Ces questions-là, il faut les poser.
Yael Gauz, le chef du service politique de France Inter, disait justement qu'il fallait donner les résultats de ce deuxième tour très serré, qui n'ont pas été publiés effectivement, et qui donnerait 52% à l'avantage d'Emmanuel Macron, 48% contre Marine Le Pen dans un second tour.
Ouais, je termine juste pour dire que c'est une alarme, évidemment, pour le deuxième tour, pour Emmanuel Macron. Ça concrétise ce bruit ambiant que beaucoup ont entendu, et moi le premier, d'électeurs de gauche, d'Emmanuel Macron, de 2017, du deuxième tour et parfois même du premier tour, qui disent et qui répètent « jamais plus, ça sera sans nous ». Et donc là, on en voit la concrétisation, mais ce faisant, c'est une alarme pour le premier tour, pour Emmanuel Macron, parce que face au risque, Marine Le Pen, Emmanuel Macron est longtemps apparu comme étant une solution. Son risque, c'est qu'il devienne un problème et que ce faisant, l'électorat de droite qui l'a rejoint, mais qui n'a pas le lien affectif qu'il avait avec Nicolas Sarkozy à son endroit, eh bien que cet électorat de droite se détache, retourne vers Xavier Bertrand. Et donc, je crois que c'est un vrai signal d'alarme pour Emmanuel Macron, comme c'en est un pour la gauche.
Natacha Polony.
Oui, je pense qu'on ne répète jamais assez à quel point ce genre de sondage ne doit être lu que comme un état actuel de l'opinion qui nous raconte des grands mouvements, etc. Et je pense qu'il est absolument aberrant de s'imaginer que les choses vont se passer comme cela. Et je pense que c'est même dangereux parce que en effet on joue à se faire peur sans tenir compte de ce qu'est une campagne. On a vu à quel point Marine Le Pen était capable de démontrer son incompétence et son inculture de façon assez monumentale et à quel point cela pouvait changer les choses. Donc là, nous avons un sondage qui nous raconte un mécontentement, une colère, la perte de confiance absolue dans l'ensemble des représentants des partis politiques et donc l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, à savoir des incarnations qui permettraient de donner l'impression d'un renouvellement, d'idées nouvelles, de changements possibles. Ce qui signifie, je pense, que tout cela se jouera beaucoup plus tard, qu'il peut y avoir des figures qui surgiront à un moment donné et qui cristalliseront l'espérance ou la colère ou quelque chose d'autre. Mais qu'en effet, c'est surtout une alerte pour tous ceux qui ont été testés là et qui devraient prendre conscience que le dégagisme peut se reproduire et qu'ils incarnent déjà le passé. C'est-à-dire que visiblement, ils échouent totalement, et même, en effet, comme le disait Gilles, le courant des Verts, ils échouent pour l'instant à donner l'impression qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait actuellement une volonté de la part de la majorité des Français de voir le Rassemblement National au pouvoir, certainement pas, et même par défaut, je pense que c'est peut-être moins alarmant que ce que ce sondage semble montrer. C'est simplement l'attente d'un discours politique qui soit un discours porteur, un discours de projection, un discours qui apporte une solution à l'ensemble des crises que nous venons de vivre, parce que ce quinquennat aura été un quinquennat de crise majeure. Mais en effet, si on se place sur le plan politicien, oui. Je pense que c'est une alerte pour Emmanuel Macron, en effet, et qui devrait l'inciter, mais on voit bien à quel point d'ailleurs il en a conscience, puisqu'il cherche à changer son discours. Son discours d'aujourd'hui est radicalement aux antipodes de celui de 2017, ce qui prouve bien qu'il a compris que ce qu'il projetait en 2017 s'est révélé totalement inadapté à la situation. Donc aujourd'hui, il est sur d'autres propositions. Oui. Mais de fait, il part, avec le poids de toutes ces crises auxquelles il n'a pas su répondre.
Et notamment la question de l'islamisme radical, de l'emprise de l'islamisme sur certains quartiers, certaines populations, et sur lesquelles on va évidemment en revenir, puisque à partir de lundi, les députés examineront le projet de loi pour conforter les valeurs de la République. Avant d'accueillir notre invité Bernard Rougier, troisième sujet du duel.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Les labos américains ont bénéficié de dizaines de milliards pour faire ce développement. Trump a mis des dollars sur la table, quoi qu'on pense de Trump, et résultat, ils ont fait très vite. Voilà. C'est pas la recherche française, elle est très bonne, la recherche de l'Institut Pasteur, elle est au top, mais là, on n'a pas pu tenir la route, on n'a pas eu les milliards suffisants, on n'a pas eu un gouvernement européen ou français qui a dit, allez hop, on prend ça, on prend le Max Planck, on prend l'INSERM, on prend le CNRS, et vous faites ça, et si vous faites ça, on vous donne 3 milliards, et vous avez 6 mois pour le faire.
C'était le professeur Frédéric Tanguy, le chef du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. C'est le chercheur qui a conduit le projet de vaccin abandonné cette semaine. Et cette question qui fait mal à l'ego national, Gilles Finkelstein, comment se fait-il qu'à l'ère du quoi qu'il en coûte, et alors que nous étions en pleine pandémie, un chercheur de pointe en France dise qu'on a manqué de moyens pour développer un vaccin ?
Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un manque de moyens, parce que d'abord ce n'est pas seulement une question française. L'ensemble des laboratoires du monde entier ont été mobilisés. Je crois que des moyens comme jamais, moyens humains et moyens financiers, ont été mobilisés. Le problème est que la recherche française en l'espèce a été moins performante, et que un certain nombre d'autres laboratoires ont trouvé des vaccins. Il n'en demeure pas moins que nous sommes partout dans une situation de pénurie, et que partout il y a des critiques, qui contre le gouvernement national, qui contre l'Union européenne, qui contre les laboratoires, et que je crois qu'une des questions essentielles qui est posée aujourd'hui concerne les choix de l'Union européenne et pas seulement les choix du gouvernement français, même si on a évoqué les erreurs initiales du gouvernement dans la stratégie de vaccination dans ces dernières semaines. Oui. Donc je crois que c'est ça la question essentielle, et pour résumer ce que je crois, c'est que les gouvernements, dont le gouvernement français, ont fait le bon choix en confiant la coordination de la commande des vaccins, parce que c'est beaucoup ça dont il est question aujourd'hui, à l'Union européenne. Je crois que c'est un bon choix financier parce qu'on a eu de meilleurs prix, que c'est un bon choix sanitaire parce que notre intérêt collectif est que ce soit toute l'Union européenne qui soit vaccinée au même rythme. Et j'ajoute que c'est un bon choix politique parce que s'il n'y avait pas eu cette solidarité européenne, eh bien vous auriez eu un certain nombre d'États membres qui se seraient tournés vers d'autres, vers la Russie ou vers la Chine. Donc je crois que ça, c'est ma première remarque, c'était un bon choix.
D'accord.
Deuxième remarque, c'est que l'Union européenne a largement fait ce qu'elle devait faire. Je dis largement. C'est-à-dire qu'elle a été efficace dans les négociations. Elle a bien négocié les prix. Quand on voit le prix auquel les Européens et les Américains payent le vaccin Pfizer ou le vaccin AstraZeneca, il y a un avantage pour l'Union européenne. Et qu'elle a été sérieuse dans ses autorisations de mise sur le marché, même si ça a pris un tout petit peu de temps. Mais il y a un problème. Et donc, c'est, je crois que cette question-là qu'il faut essayer de creuser. Il y a du temps qui a été perdu. On est en retard dans la vaccination par rapport aux autres, et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, et on pourra peut-être y revenir dans quelques instants avec Natacha.
Natacha Polony.
Oui, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question spécifiquement française, Sanofi, Pasteur. Faut-il s'en inquiéter ou est-ce un simple hasard? Les hasards de la recherche, certaines voies ont été bouchées quand d'autres débouchaient sur des vaccins. Je pense qu'il y a tout de même un problème à explorer. On a vu cette semaine le gouvernement français, orienter les soupçons non pas vers la recherche, mais vers ces grandes entreprises qui ne savent pas assez innover, prendre de risques, etc. Ce qui permet de ne pas analyser un élément, c'est que la France passe à peine plus de 2% de son PIB dans la recherche. En Allemagne, c'est 3%. Les crédits publics alloués à la recherche ont baissé de 28% entre 2011 et 2018, quand ils augmentaient de 16% en Allemagne, de 11% au Royaume-Uni. J'ajoute que quand l'Allemagne passe 3% de son PIB dans la recherche, son PIB est plus élevé que le nôtre. Donc, ça donne des sommes qui sont sans commune mesure. Et je pense que ce n'est pas anodin, et que de fait, la recherche française... Or, là, cette recherche française qui travaille main dans la main avec le privé et qui doit le faire, et tout ça, ce sont des alliances complexes entre des start-up, des multinationales et la recherche publique. Eh bien, cette recherche publique n'a sans doute pas forcément été soutenue. On n'avait d'ailleurs pas besoin de cette crise sanitaire pour le savoir. Mais là, ça se révèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième oui. point sur la question des choix pour l'achat de vaccins. Il va falloir prendre du temps, c'est-à-dire on ne peut pas pour l'instant avoir d'avis tranché sur la question, ne serait-ce que parce qu'il nous manque un élément essentiel, les contrats qui ont été signés. Là, l'Union européenne, la Commission européenne est en train de demander à AstraZeneca de publier le contrat, parce qu'en fait il faut l'accord des deux parties pour que ce contrat soit rendu public. Or, on a un débat majeur, c'est-à-dire que la Commission européenne dit qu'AstraZeneca s'était engagée sur un certain nombre de doses à une échéance précise, AstraZeneca nie cela. Et la question derrière est celle de savoir si, en fait, AstraZeneca favorise notamment le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni paye plus cher et que, du coup, en période de pénurie, eh bien, une entreprise privée va aller choisir le client qui va lui rapporter plus d'argent. Auquel cas, on pourrait dire... La Commission européenne a bien négocié, a fait baisser les prix, mais au risque de se retrouver moins bien servi. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas encore affirmer cela, on ne peut pas le dire.
Mais on laisse le point d'interrogation.
Extrêmement prudent sur ces questions. Voilà. Mais je pense qu'en effet, il va falloir se poser la question des choix qui ont été faits, de la capacité à négocier face à des multinationales. Et tout cela devra être regardé très attentivement, parce que là où Gilles a raison, c'est que c'était une bonne idée de faire comme cela. Il faut voir ce qui a raté et ce qui est de l'ordre de l'impondérable.